La marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30. L'Asie, le thème de nos rediffusions cette semaine.
L'histoire nous est à la vérité indispensable pour nous définir nous-mêmes par rapport à l'ensemble de l'histoire de l'humanité.
Le mandarinat en Chine.
Ce n'était pas un système féodal, c'était un système bureaucratique. La France vivait dans un système féodal jusqu'en 1789, jusqu'à ce que les privilèges nobiliaires aient été abolis. Mais cette Chine, depuis 22 siècles, avait aboli elle-même la féodalité, c'est-à-dire les privilèges nobiliaires à la naissance. La féodalité a été remplacée par le mandarinat, c'est-à-dire par des fonctionnaires lettrés qui sont choisis dans des examens anonymes. Le collège impérial, le palais des examens, l'école des fils de l'État, c'est l'ENA, c'est l'école nationale d'administration.
Tout simplement, ben voilà une des idées qu'a contribué à accréditer en France Alain Perfitte, le plus sinophile, je n'ai pas dit le plus sinologue, de nos hommes politiques, énarque lui-même. L'admiration des Européens pour la bureaucratie céleste, comme on l'a dit, vient de beaucoup plus loin. Les mandarins avaient été surpris de voir surgir depuis notre continent des ambassadeurs et plus encore des missionnaires qu'ils n'attendaient pas et qu'ils fascinèrent souvent. Les jésuites, dans leurs correspondances et leurs relations, présentaient le système mandarinat comme une véritable révélation. Une administration radicalement différente de celle du vieux continent, bien davantage ouverte aux talents, obligeant l'empereur à distinguer sa cassette des ressources publiques et se soumettant elle-même à une instance de contrôle. Il ne lui manquait que la connaissance du vrai Dieu. Dans les faits, le mandarinat ne ressemblait pas nécessairement au portrait qu'il voulait donner de lui-même. Son histoire, si elle plonge en effet dans la nuit des temps, entre le 4e et le 3e siècle avant notre ère peut-être, et si elle se déploie dans toute sa subtilité dès le 12e, est marquée de beaucoup plus de crises que ne veut bien le dire le légendaire. Et elle est obérée par la routinisation quand ce n'est pas par la corruption. Le mandarinat, si instruit, faisait semblant d'ignorer qu'il avait partie liée avec la classe des propriétaires fonciers. Il se présentait comme un corps de lettrés flottant au-dessus des divisions sociales, méprisant la vulgarité. C'est le propre des classes pratiquant l'idéalisme que d'attendre qu'on les idéalise.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de Pascal Girard, bonjour.
Bonjour, Jean Lebrun.
Vous avez passé tous les concours, vous pouvez parler des mandarins.
Je vais pouvoir.
Ouais. Dites-moi, vous avez fait votre thèse et vous avez publié beaucoup de textes venant des ambassadeurs portugais, c'est un livre chez Chandaigne, de jésuites et de religieux, c'est un autre livre
chez Chandaigne,
Chandaigne aussi, grâce soit rendue à Chandaigne. C'est à partir de quel moment que l'Europe commence à connaître cette révélation des mandarins?
Alors véritablement, je trouve que c'est vraiment à la fin du XVIe siècle que les Européens prennent conscience du phénomène, de l'importance de ce mode de gestion du pays. Ça ne veut pas dire qu'avant ils n'en ont pas conscience, puisque par exemple dans le dossier sur Thomé Pires, on est en 1517 et il a déjà une idée de ce que ça peut être, mais le déploiement, comme vous disiez dans votre introduction, c'est les années 1580, avec par exemple Juan González de Mendoza et son histoire de la Chine en 1585.
Dites-moi, Alain Perfitte, à la louche, calcule 22 siècles de mandarinat, les origines du mandarinat.
Alors on a des origines à la période des Tang avec l'impératrice Wu Zetian, dont on sait qu'elle avait déjà installé un peu des concours. Et puis la formalisation, c'est vraiment l'époque des Song, comme vous l'avez dit, avec une perspective, c'est de lutter contre l'aristocratie qui est encore puissante politiquement et qui est plutôt qui a ses terres dans la région du fleuve Jaune, la région aussi de la vallée La Wei. Et donc, le mandarinat va leur permettre de s'appuyer sur une classe sociale différente pour contrôler un empire assez puissant, il faut dire, l'empire des Song.
Les Song, ça se termine vers 1260.
19, exactement.
Pas mal.
Un empire puissant.
C'est à 10 ans près.
Oui, c'est parfait.
Ils viennent de quelle classe sociale, les mandarins? Et est-ce qu'ils occupent d'ailleurs tout l'espace des fonctionnaires? Ou est-ce qu'il y a en dessous d'eux des fonctionnaires subalternes,
oui,
qui sont passés sous les radars des relations, des correspondances et des admirations occidentales?
Alors ces fonctionnaires, au départ, sous les Song, ils viennent... sous les Song, les concours mandarinaux ne sont pas ouverts à, par exemple, des gens qui viennent du monde des marchands, la marchandise. Donc on est dans un entre-soi de lettrés... qui va complètement changer sous les Ming. Je pense qu'il y a une problématique qui est importante dans cette histoire des mandarins, c'est l'ouverture aux marchands à partir du XVIe siècle, et on va les voir arriver massivement dans la course à ces concours mandarinaux.
Oui, parce que elle a partie liée à la classe des propriétaires fonciers, historiquement. La classe des mandarins, enfin je ne devrais, oui, pas employer le mot classe.
Ça ne va pas
correspondre à l'idéal d'Alain Perfitte. Les examens, vous avez dit concours, vous, mais c'est en effet davantage des concours que des examens.
Alors,
description par Pierre-Étienne Ville et André Lévy.
Il y avait une offre en poste administratif très inférieure au nombre des candidats, si bien que vous aviez d'abord un tas de gens qui, ayant passé les examens, n'étaient pas pris comme fonctionnaires, ou alors attendaient des 8, 10, quand ça n'était pas 20 ans, pour avoir un poste souvent peu important.
Le système est établi sur la base de quotas qui tiennent compte d'équilibre géographique que le gouvernement impérial estime nécessaire de maintenir. Je crois que l'examen, au fond, le plus redoutable quant à la concurrence était la licence. L'écrémage était si considérable à la licence qu'au doctorat, on avait, disons, je crois, en gros, une chance sur 10 de l'obtenir. À la licence, une chance sur 100.
Baccalauréat, licence, doctorat, et les épreuves obéissent à un rituel. Les candidats se rendent à la capitale de la province avec un drapeau qui dit qu'ils sont les candidats. Les examinateurs prennent part à un banquet, puis ensuite, ça va être leur rentrée solennelle, par exemple le 8e jour de la 8e lune, avant que les candidats eux-mêmes n'entrent dans l'enceinte par groupe de 50. On a entendu des chiffres là qui peuvent être contestés, parce que ça dépend, oui, aussi des périodes.
Oui, alors ces mandarins, ils sont donc ils vont être un quart de l'ensemble des gens qui vont travailler dans l'État finalement, puisqu'il y aura, les autres seront des subalternes. Ils passent leurs examens dans des conditions très dures, en cellule. On peut encore visiter à Canton ces petites cellules dans ce qui est devenu maintenant le centre de formation des cadres du parti. Oui. dans ces petites cellules, ils ont une banquette qui est faite d'une planche et une table que l'on peut changer, et on peut la déplacer sur des sortes de tréteaux en quelque sorte qui sont fixés sur les côtés, ce qui fait que comme ça dure 3 jours et en fait 2 nuits, ils ont besoin de dormir, ils vont transformer cette cellule cette table et leur banc en un lit pour dormir pendant la nuit. Et ils emportent évidemment leur repas, ils sont fouillés, à la fois physiquement, mais aussi le contenu de leur panier repas, même est parfois complètement détruit par les gardes. On a des décès. Je pense que c'était des crises cardiaques. Ils sont en plein soleil dans certains coins. Enfin, je veux dire, c'est des cellules, mais il fait chaud là-dedans.
Les candidats au concours en France disent qu'ils entrent en loge. Et on dit, je reviens à l'ENA un instant, que un certain conformisme règne dans les copies, que ce sont toujours les mêmes textes qui sont étudiés. Il y a un répertoire très précis, et un répertoire confucéen.
Oui, alors il y a un important répertoire de textes, mais on va par exemple cibler ce qui concerne les entretiens de Confucius. Il faut les connaître à fond. Il s'agit donc de ces entretiens, ils sont C'est une série donc de petites phrases et d'aphorismes et d'échanges verbaux entre Confucius et ses proches et ses élèves. Il faut les connaître parfaitement, être capable de retrouver de mémoire dans quel chapitre c'est lorsque le sujet de l'examen arrive. Évidemment, les thèmes sont souvent politiques, moraux. Qu'est-ce que c'est qu'un bon empereur? Qui faut-il craindre? Que faut-il craindre? Que doit craindre l'honnête homme? Il y a aussi des thèmes sur le bonheur du peuple. Ce qui m'a frappé dans la littérature, c'est qu'on dit que la réponse est formelle. Alors, je voudrais plus loin, j'expliquerai un petit peu ce qu'on entend par là. Oui, c'est formel dans le sens où la réponse elle est contrainte. Elle est extrêmement contrainte.
Mais on leur demande de constituer des dossiers aussi, non?
Ils reçoivent des cahiers leurs cahiers d'exercice. Ce sont des cahiers pré-imprimés qu'ils reçoivent et ils doivent écrire là-dedans. Nulle part j'ai vu mention de brouillon, par exemple. Est-ce qu'ils pouvaient avoir des notes, un papier pour faire un brouillon? Je ne sais pas ça.
Et puis sont proclamés les résultats, ainsi que le raconte Jin Ping Mei, c'est le titre d'un roman de mœurs du XVIIe siècle, oui. Mais qui est censé se dérouler à l'époque où se déploie, en reprenant le mot, le système mandarinal au XIIe.
Il produit les trois brevets certifiés par des sceaux appropriés, les patentes des ministères de la guerre et de la fonction publique et les décrets de nomination personnelle qu'il pose sur la table pour que Xi Mengqing les examine à loisir. Il était bel et bien nommé aux fonctions de vice-commandant. Tout son visage s'irradie insensiblement d'une joie qui part de la pointe des sourcils au coin des tempes jusqu'au bord des joues pour s'épanouir en un large sourire. Il emporte l'ordre impérial pour le montrer à Dame Lune et aux autres femmes en déclarant « Sa seigneurie, le grand précepteur, m'élève au grade de mandarin du 5e rang en me faisant vice-commandant de la garde à l'emblème de l'oiseau d'or. Te voilà, dame de mandarin à 5 fleurs, roulant en char de bois précieux aux 7 parfums. »
J'ai dit roman de mœurs, un peu critique déjà, oui. Du système mandarinal. L'individu ainsi promu, il a pris un raccourci. Oui.
Alors il a pris un énorme raccourci parce que ce monsieur, Xi Mengqing, tient une boutique comme herboriste. On comprend que grâce à cette visite en haut lieu, à un haut dignitaire et grâce à des cadeaux, il est devenu un petit mandarin militaire, sans passer aucun concours. Le passage est assez astucieux parce qu'il n'est question nulle part de corruption moyennant argent. On est d'accord, on parle de cadeaux. Mais le poste a été donné par l'entourage de l'empereur, Su Huizong, qui passe lui-même pour être le prince de la Renaissance. Et donc, qui a promu les lettres, qui a été exigeant culturellement. Et par conséquent, c'est ça qui fait le mordant du roman, c'est de montrer que même un prince finalement assez positif, enfin qui est vu, peut avoir recours au même procédé que quelqu'un de...
Assez de vulgaire.
Banal, oui.
Parce que ce qu'il y a de pire pour un mandarin, c'est la vulgarité, non?
Oui. Il y a énormément d'éléments de distinction chez les mandarins. Par exemple, le port des ongles longs, le port de la robe longue, le vêtement est distinctif. Le bonnet auquel est attaché Xi Mengqing, on voit qu'il est très heureux de pouvoir porter le bonnet. Le fait de se promener en palanquin. Tout ça, ce sont des éléments. Et bien sûr, alors les loisirs. La calligraphie, la pratique des bonsaïs, la collection, collectionner des rouleaux pour les montrer à ses amis.
Oui, mais ils ont un travail quand même.
Ils ont un travail. Il y a énormément de pratiques distinctives. Alors, ils ont un travail assez important finalement quand même. D'une part, ils doivent s'occuper de l'enregistrement de la population pour tout ce qui est la fiscalité, etc., etc. Ils doivent aussi veiller à l'ordre public. Ils doivent administrer la justice, ça c'est très connu. Donc, ils ont pour cela des codes de loi auxquels se référer, le code des Ming, par exemple, 14e siècle. Et puis, ils ont aussi des actions sur le territoire. Par exemple, essayer de lutter contre le feu en faisant construire des murs par feu. Donc là, on voit très bien comment, finalement, sur ces actions sur le territoire, le mandarin va parfois avoir besoin des élites locales. Par exemple, des murs pare-feu, ça coûte un peu d'argent. C'est pas l'État qui va lui payer ça. Ce sont les commerçants et les guildes marchandes qui vont se cotiser pour de telles opérations.
Mais au moins jusqu'au XVIIe siècle, il y a un système de censorat. Les mandarins font des tournées pour surveiller.
Alors, il y a trois grands corps, on n'en a pas parlé, mais il y a trois grands corps de mandarins. Il y a les mandarins civils, pour lesquels on utilise le mot système des examens, les mandarins militaires et le censorat. Alors, le censorat, c'est un corps d'inspection qui a certains fonctionnaires en poste, on va dire à demeure en province, mais qui a aussi, bien sûr, qui peut arriver à l'improviste dans les provinces pour examiner des finances, examiner ce qui se passe. Notamment, il agit sur dénonciation et sur soupçon donc de corruption.
Un petit peu l'équivalent de la Cour des comptes. J'essaye de faire le rapprochement systématique entre les mandarins et les énarques en France, qui souvent débutent quand ils sont maîtres des requêtes au Conseil d'État ou à la Cour des comptes par des tournées. Beaucoup de travail pour le censorat à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, ainsi que l'explique votre maître Lucien Gernet.
Je crois que l'empereur est le garçon le plus seul de la terre. Il serait tristement commode qu'il devint aveugle.
Aveugle ?
Aveugle à ce qu'il en coûte de maintenir au palais 1200 eunuques, 350 dames d'atours et de compagnie, sans compter les 185 cuisiniers. Aveugle à l'achat de 120 manteaux de zibeline par mois et à 3 milliers de volailles par semaine. Et au fait qu'il y a ici 840 gardes et employés attachés au service impérial, plus un grand chambellan qui n'ont rien de plus pressé que de se mettre de l'argent plein les poches.
L'empereur devient invisible à partir de la fin du XVIe siècle. Il ne s'occupe plus du tout de gouvernement. D'où la multiplication des factions, le rôle de plus en plus grand des eunuques. À cela s'ajoute une crise financière extrêmement grave qui s'explique par la charge extrêmement lourde que constitue l'entretien des princes impériaux. Et pour renflouer les caisses, l'empereur envoie les eunuques en province pour taxer les riches familles qui commettent toutes sortes de crimes abominables. Et en même temps, ces eunuques sont une sorte de KGB à l'intérieur du système chinois. Ils ont leur propre police secrète, leur propre prison où ils torturent et mettent à mort les fonctionnaires qui essayent de lutter contre la corruption. Donc, les jésuites arrivent en Chine à un moment de décomposition de l'État et de la société.
Jacques Gernet, pas Lucien, il y a une punition quand on n'a pas bien dit les noms dans le mandarinat.
Vous êtes excusé.
Pascal Girard.
Tant de choses belles et différentes.
Il introduit là les jésuites, votre maître. Alors, les jésuites, ils arrivent à un moment favorable, finalement. Les mandarins sont peut-être dans un moment de décomposition, et les jésuites vont les flatter par leur admiration, leur fascination même. Alors, pour certains d'entre eux, en tout cas.
Ce qu'on peut dire, c'est que le système, il va mettre du temps à se décomposer, puisque finalement, parler de la décomposition du système, j'emploierais plutôt l'expression pour le XVIIIe siècle, quand on est en plein engorgement, il y a beaucoup trop de recalés au concours, il n'y a pas de poste, les gens ont recours à la surdiplomation, c'est-à-dire qu'ils vont passer au XVIIIe siècle d'autres concours, le concours du doctorat, pour espérer avoir un pauvre poste en sous-préfecture. Donc c'est pas joyeux, on est dans un système qui est de société bloquée. À l'époque dont parle Gernet, on est donc à la fin du XVIe siècle, début XVIIe, à un moment où il y a des luttes de factions en haut lieu, notamment un parti qui s'appelle le parti du Donglin, qui a été un parti qui a voulu lutter contre la corruption, essayer de dénoncer ce qui ne va pas. Et il y a eu une grande purge politique, donc c'est pour ça que Gernet emploie l'expression KGB, qui se termine en 1627 avec à la fois des gens qui sont arrêtés, mais aussi des académies lettrées, ce qui étaient ces grands centres d'études qui sont fermés. C'est de cette période-là que parle Gernet. Ce qui va plaire aux jésuites, c'est l'idée d'un recrutement qui ne se fait pas par la naissance. C'est qu'on est dans des fonctions non héréditaires. C'est aussi l'éthique, l'idée de loyalisme, la vertu en politique. Il faut aussi regarder ce qu'ils n'ont pas compris.
Qu'il y a des malentendus et des incompatibilités.
Beaucoup, je pense, dans ce qu'ils n'ont pas compris, il y a tous ces redoublants et ces échecs. Il y a plein de gradués sans poste. Ils n'ont pas compris non plus la tension qui existe entre finalement ceux qui sont des agents de l'État et qui sont assez en haut lieu et ceux qui sont des mandarins à l'échelle beaucoup plus locale de la préfecture, la sous-préfecture. Il y a une tension constante. C'est pas fluide tout ça. Il y a parfois des ordres qui ne sont pas appréciés en bas. Par exemple, la lutte contre le grand commerce, le commerce maritime. Le grand commerce, l'État a voulu au XVIe siècle en faire l'apanage a voulu en faire un commerce d'État. Et pas le laisser entre les mains des privés. Mais sur place, dans les provinces, vous avez quantité de marchands qui aimeraient bien aller aux Philippines, à Malacca, faire du commerce. Donc voilà, un exemple de tension que l'on peut remarquer. Les jésuites n'ont pas vu non plus la dimension sociale de l'affaire. Et alors, il y a aussi tout un pan qu'ils ont complètement ignoré, c'est ce qui se passe à la campagne, qui sont relativement autogérés finalement, avec ces riches coqs de village qui gèrent le reste des gens. Et puis, les jésuites n'ont pas vu non plus qu'il existait des systèmes de coupe-fil. Parce que finalement, on peut l'acheter le titre de bachelier. Alors, ce titre de bachelier, on va pouvoir, moyennant finance, c'est assez cher, se l'offrir. Et comme les bacheliers, ça représente, enfin, c'est un concours où il y a 1% de reçus. C'est pas mal d'acheter ce niveau-là pour que son propre fils aille directement passer l'examen de la licence.
Vous nous offrez, Pascal Girard, des possibilités de comparaison innombrables avec la France en décrivant ce système mandarinal qui commence à se fissurer et qui ne va plus susciter l'admiration à partir du 19e siècle et même au 20e siècle. Quand il sera sur sa fin, on s'en moquera. La dernière partie de l'émission, vous nous pardonnerez cette offense, est introduite par Ray Ventura. Qui se moque des mandarins.
Un Français de bonne mine rapportait de son voyage en Chine 1000 souvenirs très précieux sur le langage étrange de ses fils des yeux. Il paraît qu'un jour de fête, il alla muni d'un interprète présenter ses vœux à trois mandarins avec lesquels il voulait bavarder un brin. À la porte, dès qu'il apparut, les trois mandarins jusque à terre s'inclinèrent en un profond salut et d'une même voix lui récitèrent Ding ling ling fucheo, c'est chouette et pechili tranqueo, ping et pong et wing et wong et ho wang ho, ucheo sintao, ucheo sintao, et sing et pao ting et sucheo pei fu, et toc, un point c'est tout.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Pascal Girard, le système mandarinal, vous ne nous avez pas dit comment vous avez passé vos examens de chinois?
Alors, j'ai fait les langues zo, et puis j'ai été à Taïwan suivre des cours de chinois. C'était à l'époque, donc juste après Tiananmen. Et c'était difficile d'aller en Chine continentale, comme on dit, à Pékin. C'était voilà. Donc j'ai choisi d'être dans les caractères les plus compliqués directement. Enfin, ça s'est fait comme ça. Et après j'ai continué. J'en fais tous les jours à étudier le chinois, à la fois par moi-même et puis avec des professeurs privés à Paris.
Au XIXe siècle, l'image s'inverse, pas seulement à l'étranger, d'abord en Chine. Et vous vouliez nous parler d'un livre qui a beaucoup de circulation au XIXe, qui date déjà de du milieu du XVIIIe, Chronique indiscrète des mandarins. Là, on est passé du roman de mœurs, on évoquait les romans de mœurs tout à l'heure, au roman vraiment critique.
Oui, alors oui, c'est un roman satirique. Ce roman de Wu Jingzi, qui a été écrit en 1735, il est différent du précédent que nous avons cité. Il est comme une grande galerie de portraits. où l'on voit finalement des personnages entrer et sortir et entre les deux passer sur les tréteaux. Et il y a un passage qui est très célèbre qui parle d'un candidat malheureux qui a plus de 50 ans, il a passé sa vie à étudier.
Alors, Fanchine. Il s'appelle Fanchine et voilà, tout le monde se moque de lui, à commencer par son beau-père.
Voilà, il est boucher, le beau-père il a un vrai travail, tandis que le gendre est toujours là à essayer de passer les concours, il a rien. Et un jour, il est donc d'une famille, on va dire, un mélange famille rurale du côté de lui. Et puis, il a fait quand même un mariage assez intéressant du côté donc de ce marchand, ce beau-père marchand de viande. Et un jour, il a la chance d'avoir à la fois, coup sur coup, le baccalauréat, d'être bachelier et l'examen provincial, la licence.
Alors là, il court dehors, si vite que les messagers et les voisins sursautent de peur. Peu après, il glisse, il tombe dans une mare, ses cheveux sont défaits, ses mains souillées de boue, tout son corps trempé. Il est devenu fou.
C'est des images un peu chinoises de la folie. Les cheveux défaits, par opposition à la natte, coiffée. Le milieu aquatique. Traverser à pied la rizière en courant, c'est pas bon signe. C'est ces images de folie. Il est pas fou pour longtemps. En réalité, il a une folie passagère. Et on va lui faire quitter sa folie en lui faisant une grosse peur, puisque finalement il a eu une énorme émotion, les émotions agissant sur déclenchant ce moment de folie. On va lui faire une grosse peur pour l'enlever. Et cette grosse peur, c'est quoi? C'est son beau-père boucher qui va lui faire peur. Alors il y a une astuce avec une phrase de Confucius qui se glisse là-dedans. C'est que l'honnête homme doit avoir peur du ciel, des anciens et des hommes importants. Donc finalement, même s'il est devenu titulaire de la licence, ce qu'on est en train de nous dire, c'est qu'il sera jamais un bon mandarin. Par ailleurs, moi, ce qui m'a frappé dans ce passage, c'est finalement de se demander, est-ce que ça les détruit cérébralement, je veux dire, intellectuellement. Est-ce que c'est destructeur, ces examens que l'on répète, c'est horrible. Alors, pareil, je vais prendre un exemple d'une copie d'élèves que j'ai trouvée. On leur demandait, quand ils écrivaient à ces candidats, quand ils devaient parler de l'empereur ou de la capitale, de placer le caractère qui veut dire ça en haut de la copie, quitte à aller dans la marge. Ça veut dire qu'il faut calculer suffisamment pour que quand on écrit, le mot arrive pile poil en haut de la page. C'est un peu comme quand on pose du carrelage, vous me direz. Sauf que...
Cette comparaison est vulgaire.
Tout à fait. En fait, vous le feriez peut-être pas. Exactement. Et donc, c'est pas tout à fait comme du carrelage, parce que la langue, elle a une structure syntaxique. L'adverbe, par exemple, il est toujours avant le verbe. Donc, on doit calculer, vous comprenez, là où va se trouver le mot pour qu'il soit pile poil à la bonne place. Donc, je dirais que ça débouche.
Rien ne dépasse. On croirait lire les comptes rendus des présidents du concours de l'ENA qui disent que tout est prévisible dans les copies des candidats. Le système prend fin avec la République?
Le système va prendre fin avec la République, oui. On a néanmoins jusqu'au bout des gens qui font la course au grade des académiques. Pourquoi? D'abord, on n'a pas forcément d'autres systèmes de rechange. Et en 1905, donc, seront abolis les examens.
Ayons une pensée émue pour ceux qui préparent sur plusieurs années de rang le concours de l'École nationale d'administration. Oui. Et puis rappelons que le livre de chevènement très critique sur l'ENA s'intitulait dans les années 70 « Les mandarins ». Et vos livres sont parus, Pascal Girard, aux excellentes éditions Chandaigne. Audrey Ripouille à la réalisation, Julien Dumont à la technique et la préparation. C'était Adèle Kaito.